pense qu'aujourd'hui, la marque de fabrique, c'est serviteur de la joie et vraiment maître de la joie.
Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée, comme vous dites, en passant de Aïn Karem, là, enfin, vous avez dit annonce explicite.
Oui.
Ça veut dire quoi
ça? Alors, ça veut dire que de plus en plus sur le parvis, j'incite les personnes, les binômes. On va deux par deux. Hein. Tout seul, on est cloche, ensemble, on est carillon, disait Monseigneur Boussard. Tout seul, on est cloche, ensemble, on est carillon. Ou bien nous faire sourire de temps en temps. Hein. Donc, il y a quelques-uns qui ont essayé des solos. Hein. Même moi. Moi, souvent, je suis avec une femme, croyante, pratiquante, et le curé ne va pas tout seul. Il a beau être curé, il n'a pas l'onction, et on joue le jeu au sens noble. Deuxièmement, quand on est sur le parvis, contexte de parvis, hein, j'entends bien pour ça. J'encourage à un regard, à une salutation, à un prénom, d'où vous venez, etc. Et rapidement, non pas à cracher le symbole de Nicée-Constantinople, pardon, mais à répondre à la question pour chacun des évangélisateurs, des missionnaires, pour vous, qui suis-je? Ça demande, en amont, de prier. Ça demande, en amont, d'avoir un peu une formation. Et au-delà de la technique avec une personne, c'est est-ce que je suis capable de dire à cette personne, si elle me demande, ou si elle ne demande pas subtilement, pour moi, qui est Jésus? Le kérigme, c'est ça. Par exemple, si vous me demandez à moi, qui est le Christ pour vous, Père Marie? Moi, ma réponse aujourd'hui, c'est Jésus est celui qui m'aime et que j'aime, que je veux suivre et que j'attends.
Qui m'a sauvé.
Voilà, qui me sauve. Hein, chacun a ça. Voilà. Et bien, il faut que, non pas par cœur, mais avec son cœur, l'évangélisateur, le missionnaire, soit capable de dire avec ses mots à lui, mais en communion et en cohérence avec l'enseignement d'Église, celui en qui il croit. Moi, j'ai vu des gens qui vous crachent le credo, qui vous crachent les vérités toutes faites de l'Église. Non. Ce qu'on souhaite, c'est l'intelligence du cœur. Ce que les gens veulent voir, c'est un témoin, c'est pas un maître. Paul VI disait ça. Le monde a plus besoin de témoins que de maîtres. Et ce qu'il souhaite, c'est de voir un témoin qui témoigne de sa vie, sa foi, et qui puisse dire « Je ». Venez découvrir celui en qui je crois.
Donc c'est ça l'annonce explicite.
L'annonce explicite, c'est ça. Ça commence par le kérigme. Je crois que l'annonce explicite commence par le kérigme. Il est vivant. Je ne dis pas « je suis Patrice Marévin, je suis curé de la cathédrale, je suis comment le... » Voilà, non. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia.
Si on a besoin de dire annonce explicite, ça veut dire qu'on a pratiqué des annonces implicites ou...
Oui, c'est-à-dire que l'implicite, c'est... Genre, on est sur le parvis. On est présent, on est là. On essaie de dire qu'on est... Alors maintenant, moi, je vais mettre une petite Marie, paroisse cathédrale, parce que ça peut être témoin de Jéhovah ou les Mormons. Hein. Donc voilà. Bon. Alors, l'implicite, vous savez bien, parfois, on fait tous de l'implicite. Moi-même, avec des amis, parfois, quand je mange avec eux, je ne suis pas toujours en train de leur dire que Jésus-Christ a sauvé. Bon, voilà. Et l'explicite, c'est annoncer de manière juste, vraie, adaptée et intelligente qu'il est vivant, il est ressuscité. Exemple pour moi. Là, j'ai un peu de peine, j'avoue. À 30 mètres du presbytère, Olivier, 50 ans, vient de mourir. Mon âge. On a fêté ensemble nos 50 ans il y a 6 mois. Un mois après, on lui donne un concert, il est mort avant-hier. Je l'enterre lundi à 11h. Solène, sa femme, les enfants, je ne vais pas dire c'est presque devenu des amis, mais les gens que j'estime, que j'accompagne. Et sa mort me fait beaucoup de peine. Moi, il m'arrive parfois, quand quelqu'un décède, de dire « maintenant, elle sait ». Pour Olivier, je n'ai pas dit ça tout de suite. Quoi. Je suis allé, il y a eu de très longs silences, il venait de mourir. Ils m'ont appelé. On est resté une heure quasi dans le silence, dans un regard qui était très implicite. Et hier, en préparant les obsèques, on a pu commencer à parler du ciel, là où il est, avec Malo, l'aîné, qui d'ailleurs m'a posé des questions. « Papa, il est où maintenant ?» Et moi, je vois à la cathédrale, on a plein de questions sur la souffrance, sur la mort, sur le comment. C'est un carrefour, et j'ai plutôt intérêt à voir des gens. Je ne demande pas d'avoir un bac plus 5 en théologie, ce n'est pas le problème. Mais c'est l'intelligence du cœur et de l'esprit. Et si eux ne savent pas bien, qu'ils renvoient vers un panneau indicateur, qui sera? Parce que nous, on est un carrefour. de questions sociétales, anthropologiques, sur la vie, sur la foi, le lien entre science et foi, qui fait que on fait l'annonce explicite, mais moi je demande, ne vous embourbez pas. Ne vous embourbez pas. Je préfère dire, ben voilà, le Père Marivin est là, ou un autre, hein, ou un chrétien formé, mais voilà, c'est ça l'annonce implicite. Je veux dire que pour Olivier, le jour de sa mort, j'ai fait de l'annonce implicite. Ma présence dit déjà des choses. Et lundi, parce qu'on a cheminé ensemble, il y a des choses que je pourrais dire dans l'homélie, parce qu'on aura, parce qu'en plus on se connaît. On est presque, ils me connaissent, ils ont confiance. Vous voyez, et je pense que quand on est missionnaire, il faut l'intelligence du disciple d'Emmaüs. Vous voyez, comme Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par rejoindre et écouter. Voilà. Il écoute l'histoire sainte d'une personne. Il rejoint, il écoute. Après, il suscite, par sa présence, il suscite des questions. Et quand on suscite une question, on donne une réponse. Et après, petit à petit, il donne à voir dans l'auberge. Vous remarquez que Jésus, dans les apparitions, c'est pas... il y a quelques fois où c'est boum, mais d'autres fois où il fait de la pédagogie différenciée, Jésus. Oui. C'est pas de la même façon aux disciples d'Emmaüs qu'à Thomas et qu'aux autres, parce qu'il les connaît. Moi, j'aime bien dire que Dieu n'aime pas tout le monde, il a une préférence pour chacun. Quand je visite des malades à l'hôpital, je peux faire 3 malades à suivre, je n'ai pas du tout la même manière. Ce n'est pas une technique, c'est une rencontre avec une personne. Alors c'est ça qui fait notre la grandeur et la pauvreté de notre mission, c'est qu'il faut savoir oui, s'adapter, être flexible, ne pas tout calculer et demander au Seigneur. Et deux par deux, pourquoi, j'ai envie de vous dire, parce que pendant que l'un parle, l'autre écoute. L'autre écoute, pardon, et l'autre prie. Moi, il n'y a pas longtemps, c'était pas moi qui étais au centre de la discussion, tout près que je suis avec Col Romain sur le parvis, c'était Annie Rogeski, la femme du diacre. Et elle était questionnée sur des choses précises liées à sa vie de femme. J'ai prié pour elle pendant ce temps-là en silence. Alors, la communion des saints. Sachez que pendant ces missions-là, quand il y a du monde sous parvis, il y a du monde devant le Seigneur à l'adoration.
Et vous avez Saint-Vincent Ferrier en plus.
Voilà, Saint-Vincent Ferrier, on a des outils. On a, voilà, on a des outils locaux qui nous aident. Pour ça parle à certains, ça ne parle pas à tout le monde, mais ça parle à certains. Oui.
Donc en fait, toujours par deux, comme le Seigneur envoyait des apôtres, par deux. Et là, c'est explicite. En fait, c'est Saint Paul, finalement, alors. Parce que Saint Paul est très explicite.
Oui. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est ma foi. Exactement. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est ma foi. D'accord. 1 Corinthiens 15. Exactement. Alors, voilà. J'ai croisé des paroissiens tout à l'heure en venant. 4 séries de paroissiens. J'aurais pas dit tous il est ressuscité des vivants. Mais ben, ils me connaissent. Je suis leur pasteur. Mais j'ai une parole pour chacun. Dont une dont j'enterrais la maman il y a un mois. Je l'ai bien reconnue. Voilà, on a dit qu'on appartenait ensemble. Et là, je n'avais pas à lui dire, je suis pressé, parce que je n'avais pas revu de concrètement plus enterrement. Donc, s'il y a une messe, bon, voilà. C'était un exemple, on va passer au deuxième exemple, si vous voulez. C'était un exemple. Vous voyez bien, je suis prudent, parce que c'est une expertise sur un lieu, sur une communauté, sur un rapport d'étonnement. Je sais que humblement, tout est à refaire chaque jour dans la prière et qu'on ne crie pas cocorico. L'été prochain, il y a une date de prise, du 9 au 15 août. Les équipes se mettent en route après Pâques. Là aussi, il y a une. On fait du. Ben, moi, j'aime bien faire du timing. À la fois, moi, je suis très programmé et très déprogrammé, pour le coup. Le rétro-planning, il est fait, mais j'accepte que tout soit déprogrammable. Il faut accepter la déprogrammation. Et ôter de nous la rigidité. Oh là 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 là. Alors, deuxième exemple, maintenant, je vous propose. Alors, la paroisse a grandi hein, depuis 2015. Et nous avons proposé à l'avant 2020, vous entendez bien, 2020, donc en pleine pandémie, on a fait une semaine de mission sur les quartiers de Square de Rouen et de Clairvallon. Pour vous situer juste près du Palais des Arts à Vannes. Alors là, pour le coup, la paroisse, elle repose, il faut que je vous explique, sur aujourd'hui, quel type de gouvernement, entre guillemets, quel type de comment, de management, pour employer le mot de Marie-Noël. Il y a une équipe pastorale qui se réunit tous les 15 jours. Il y a le curé, il y a deux diacres, trois femmes, une déléguée à la communication, l'autre à la catéchèse, l'autre à l'évangélisation. Donc, avec un ordre du jour, avec une vision, au service de l'ensemble de la paroisse. Et puis après, c'est énorme, hein, il y a 30 coordinateurs de mission dans la paroisse. Ça veut dire que j'ai nommé des coordinateurs de mission dans chaque secteur d'activité de la paroisse, pour 3 ans. Très clairement, ça va de l'éveil à la foi, la liturgie de la parole, l'équipe funéraille, l'équipe baptême, vous voyez, les servants d'hôtel, les servants d'assemblée, le service des malades, voilà, tout un panel à partir des 5 vitamines spirituelles, A comme adoration, B comme belle église, C comme charité, D comme distributionnaire, E comme évangélisation. Et pour ne pas faire une usine à gaz de tout ça, on a, je ne sais pas si je vous ai amené ici, je voulais vous amener, parce que chez nous, tout le monde peut ne pas se connaître. J'ai fait un trombinoscope, on a la photo, les coordonnées de chacun, et de plus en plus, je veux que les gens travaillent les uns avec les autres. Et la mission qu'on a organisée avec courage, on était fous, à l'avant 2020, c'était entre autres pour donner à travailler plus ensemble en regard croisé. Et j'ai mis dans le coup plusieurs coordinations de mission. Saint-Vincent-de-Paul, le service évangélique des malades, vous allez comprendre pourquoi, l'équipe évangélisation, et on a mis aussi le sous-catholique avec nous en place. Donc c'était plusieurs coordinations de missions ensemble pour aller sur un terrain. Alors, les experts, entre guillemets, étaient ceux qui sont membres du festival missionnaire. J'ai oublié de vous dire qu'entre-temps, plusieurs samedis matins dans l'année, on fait le parvis de la cathédrale, aux grandes fêtes, à Toussaint, Noël, Pâques, la Pentecôte, et que parfois, le chœur liturgique jeune, le chœur triforium qui anime la messe du dimanche soir, on a la chance d'avoir 4 chœurs joués à la cathédrale, dont un chœur d'enfant, anime sous le parvis de la cathédrale pour donner un peu de punch. Et tout ce monde-là s'est retrouvé pour faire une mission la première semaine de l'Avent 2020. Quel était le but ? C'est rejoindre un quartier de la paroisse, faire du porte-à-porte. Être signe du Christ avant Noël. Moi, je crois que c'est un moment très favorable avant Noël. Aller frapper à la porte des gens avant Noël. Du coup, on a une petite icône à donner, on va chez les gens avec, vous voyez, un petit prétexte, une crèche, une invitation à un concert de Noël, ben, c'est plus facile. Et puis, travailler avec différentes instances de la paroisse. Pas uniquement, parce que, vous voyez, le risque, c'est qu'on crée des experts dans la paroisse. L'expert des funérailles, l'expert du baptême, l'expert de l'évangélisation. Et non, c'est toute la paroisse qui doit être missionnaire. Et ce que je voulais, c'est que les membres de Saint-Vincent-de-Paul aussi soit plus missionnaire, service évangélique des malades, et qu'on s'enrichisse mutuellement les uns des autres. Ça a été le cas. Au début, ça avait bousculé un peu. Hein. Première réunion, en septembre, bon, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Quelqu'un de Saint-Vincent-de-Paul me dit, mais moi, Père, je ne ferai pas de porte-à-porte. Non, mais vous allez participer à votre manière. Alors, bien sûr, on a continué d'adorer le Seigneur toute la semaine dans la cathédrale, c'était évident. Et puis, on avait plusieurs paroissiens qui habitaient Clairvallon. Et une paroissienne, super, m'a dit, j'accepte que chez moi, il y ait le QG. Comme il y a un QG de campagne, il y avait un QG de la paroisse dans Clairvallon. Donc, elle a transformé son appartement en oratoire. Et on se retrouvait, c'était de 9h30 à midi, de 14h à 17h. Et on se retrouvait pour prier en début, fin de matinée, en début, fin d'après-midi. Il y a plusieurs binômes qui essaimaient dans les immeubles. Hein. Et on priait chez elle, et pendant ce temps-là, d'autres adoraient à la cathédrale. Voilà.
C'est-à-dire ceux qui allaient en mission, priaient au début.
Oui, alors voilà. Et puis, on traçabilisait. Parce que pourquoi j'ai aussi mis dans le coup conférence Saint-Vincent-de-Paul derrière, j'avais l'idée du service après-vente. Et ça s'est réalisé. On a trouvé des gens en situation de précarité à Square-Rouen. On a trouvé des gens en difficulté. Et je m'étais dit, il faut qu'on les traçabilise et qu'on les accompagne. L'idée, ce n'était pas de nous faire plaisir uniquement c'était, j'identifie madame une telle, et là, et ben après le service évangélique des malades, depuis, retourne voir plusieurs personnes, qui ne se seraient jamais manifestées sans ce temps-là, et ben, j'ai au moins enterré déjà deux personnes que j'ai rencontrées, de Claire Vallon, qui était en solitude, hein, et ça m'a semblé pour la visiter, oui, aussi. Donc, là, il y a eu... Et c'est pour ça que, dans l'idée du pasteur, c'était de se dire, on ne fera pas uniquement la porte pour nous faire plaisir. Parce qu'on peut se faire plaisir aussi en faisant ça, vous savez. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai parfois l'évêque, si vous voulez me lâcher des responsabilités, vous me mettez comme on a... parce que ça peut être amené charisme. Mais on se fait plaisir, on rencontre des gens. Après, quelle suite, quelle traçabilité, quel suivi, quel... Bon. Donc, voilà. Ça a duré une semaine du lundi au dimanche. On a porté dans la prière universelle, dans la communauté. Moi, j'ai fait un édito sur... Et donc, on a mis un zoom dans la paroisse sur ce quartier. Et on en a parlé. Alors, ce qui est sympa, par exemple, ça s'est su outre mesure. La première adjointe de la ville me dit quelques temps après, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez vécu là-bas? Parce que moi, ça m'intéresse. Ce que vous avez diagnostiqué, ça m'intéresse. Et c'est très intéressant aussi. On est, Paul VI disait que les chrétiens sont experts en humanité. Pour pas qu'on soit interrogé par telle ou telle instance de la ville pour dire comment vous avez vécu ça, pas par curiosité, mais quel style de population vous avez rencontré, comment vous avez approché, et puis qu'est-ce que vous diagnostiquez. Donc, ça a duré, vous aurez tout déroulé, hein, qui va vous être donné, une semaine. Alors, il y a eu des portes claquées au nez. Il y a eu du combat là aussi parce qu'il y a une personne qui a tout fait pour que le syndic mette une pancarte, c'était midi le mardi, qu'aucune visite ne pouvait se faire, pas de porte à porte. Tant pis, on y va. Oh, moi, je suis un peu fou. On avait des complices un peu. Oui, il y avait le contexte sanitaire, on était en masque.
C'était audacieux.
Ah oui, non, c'était audacieux. Je pense que là, quand j'y pense, je me suis dit, oh, oh là là là. Et on était quand même au moins 5 binômes. C'est pas mal, hein? C'est humble, mais 5 binômes, il y avait toujours au moins 2 binômes le matin, 2 binômes l'après-midi. Et on a fait tout ce foire de Rouen et tout Clairvallon. Et en fin de semaine, on est retourné, alors les portes ne sont pas ouvertes. Ben depuis, on y est retourné, moi j'y suis retourné, j'ai lié un peu ami-ami au sens noble avec tel ou tel qui ne met jamais le pied à l'église, et il y a un homme, là, ce foire de Rouen, qui est un peu mon relais, et par exemple, pour une demande de baptême, une jeune femme, c'est de sens précaire. Il m'a téléphoné, il m'a dit, père, elle ne sera pas capable de faire la démarche. Est-ce que quelqu'un de paroisse peut venir? Voilà. Et mon but, c'est aussi de créer des relais dans ce quartier. Un peu des satellites. Pour être vigilant. Et je vois un Gérard, là, un monsieur dont j'ai enterré sa femme l'année dernière. Voilà, c'était un paroissien de la cathédrale. On sonne chez eux. Je dis, je les connais de vue. Je ne connais pas leur nom. Hein, vous savez, quand on est pasteur d'une paroisse comme la mienne, c'est ça qui est ennuyeux. On ne va pas dire aux gens au bout de 5 ans, tu t'appelles comment? C'est la honte, quoi. Assez. Et donc, il me dit Francine, Alzheimer, on a pu l'accompagner, elle est morte le 30 juillet l'année dernière, j'ai célébré sa sépulture, ben, depuis Gérard, il a un peu de temps, c'est un peu lui mon veilleur dans le quartier, il me dit tiens, un tel, puis il fait ça bien en plus, quoi. Donc pour nous, on est des relais dans des quartiers, parce qu'en ville, on est vite seul, quoi. Bon, j'ai enterré Annie Rocheteau, elle est morte subitement, 89 ans, il y a 2 mois, et sa fille m'a dit, ben, vous savez, père, quand vous êtes passé, c'était moi, hein, avec il y a 1 an et demi, pour maman, ça a été un vrai déclic. Je ne savais pas ça. Elle est ressortie après, elle avait peur de tout, peur de. Et le fait qu'elle revenait à la cathédrale, ça a été, votre visite a été extrêmement bénéfique. Je n'en savais rien. Sa fille me le dit le jour de sa mort. Vous voyez comme quoi. Oui, alors, je ne veux jamais que dans le contexte, on a été hyper limite. On n'a pas été chassés. On a eu des très très bons moments. Square de Rouen, je me vois à genoux avec un homme, Patrick, sans religion. Il fumait, il buvait, tout ce qu'on veut. Sa copine, qui était enceinte de lui, ouvre la porte. Elle me dit, bah, c'est bien, venez, il va mourir. On s'est mis à genoux dans un appartement, c'était le Capharnaüm. Et je me vois à genoux, main dans la main, et regardez, et je n'ai pas eu de nouvelles après, je vous avoue. Je ne sais pas ce qu'il est. Comment ça s'est. Voilà. Et elle m'a remercié, ça. On est resté 1 heure.
Mais Jésus faisait ça.
Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Vraiment, alors, je pense que pour une semaine missionnaire, le temps de l'Avent, c'est pas mal. Le temps de l'Avent, vous voyez, c'est... on a invité des gens à venir voir la crèche à la cathédrale, on a prié pour ce lieu-là, on a fait redécouvrir la paroisse qu'on avait, parce que nous, notre paroisse cathédrale, territorialement, n'est pas très grande. Sa paterne est très grande, territorialement, est très grand, mais quoi qu'en ville, tout est très électif, vous savez. Hein. On peut habiter à bout de la ville et venir à la cathédrale, puis de faire prier sur... faire prier sur un quartier particulier. Mais ma stratégie, c'était de faire travailler ensemble différentes coordinations de la paroisse. Et au retour, on avait un cahier de 4 pages de noms de gens. Hein. Et alors, faire attention, parce qu'on ne peut pas tracer comme ça. On avait quasiment toutes les situations. Le midi, on mettait tout au propre. Madame une telle rencontrée, seule, pourrait avoir besoin de Saint-Vincent de Paul. Monsieur un tel... Alors, c'était une mine. Et j'ai vu la joie que les chrétiens avaient travaillé ensemble aussi. Je pense à Marie-Françoise, coordinatrice de Saint-Vincent de Paul. Elle ne voulait pas faire de porte-à-porte. On a discuté. Elle est venue voir comment, en début de semaine, le vendredi, elle a fait du porte-à-porte avec moi. Et aujourd'hui, elle va essayer de se former pour le faire pourquoi pas l'été.
C'est vraiment c'est incroyable. Parce que, moi, je suis comme commerciale. J'ai dû faire une porte-à-porte à de rares occasions, comme je déteste ça. J'ai dû en refaire à l'occasion de la campagne.
Oui.
Et à chaque fois que j'en fais, effectivement, ça se passe très bien parce que j'ai le truc pour.
Oui.
Mais je me fais... violence pour le faire. Et là, je me dis, le faire pour Jésus,
oui.
Je veux dire, là, je pourrais vraiment avoir une meilleure femme à vendre, si vous me permettez. Voilà, et pourtant, je. Ouais,
un petit mot sur la formation, justement, de ces personnes.
Alors, oui, j'ai oublié de dire ça. Pour la chance qu'on a eue pendant le festival missionnaire, c'est que ce n'est pas moi qui ai donné la formation. Vous voyez ? C'est bien que le curé ne soit pas partout. Il faut trouver les bons agents. Et là, c'est un frère de Saint-Jean qui vient de Toulon, qui a formé pendant le festival missionnaire, pendant 3 ans de suite, des paroissiens volontaires pour cette formation-là, pendant le festival. Vous voyez ? Auto-formation et papa Patrice Marivin. Et j'étais sûr de sa probité, oui. J'étais sûr qu'il n'allait pas raconter trop de bêtises ou être trop bien. Et il a été très apprécié. C'est lui qui a donné l'information.
Donc c'était des petits topos.
Oui, ils allaient dans la chapelle axiale, ils faisaient des petits topos, ils mettaient les gens en situation. D'accord. En situation. D'accord. Là, tu mets comme ça, et puis il a même réussi à convaincre deux qui étaient honnêtement incapables de faire le parvis, d'admettre par elles-mêmes qu'elles en étaient incapables. Ah. C'est fort, ça. Parce que je me disais, oh là là là, Madame Untel et Madame Untel, pas conscience de leur fragilité, fin de semaine, elles m'ont dit tous les deux, non, père, on voit bien qu'on... Non, on est... Mais humblement, on... Ouf, merci Seigneur. Donc parfois, il ne faut pas me curer non plus, ou que... C'est bien.
On filtre pas, on
voilà. Laisse venir. Et puis il y a une grâce particulière pour la suite, c'est que Annie Roginski, femme d'Étienne Diacre, que j'ai connue à guerre, ils sont arrivés sur la cathédrale. Et elle, avec son style à elle, sa manière à elle, avec Réjouis-toi, ils sont engagés dans le côté Réjouis-toi, ils sont habitués à cet exercice spirituel, et donc du coup je l'ai délégué à cela. Et c'est bien aussi que ce soit une femme, qui accompagne cette question-là. Et Annie, c'est elle qui a, au bout de 3 mois qu'elles étaient là, on a monté cette visite à Clairvallon, et c'est elle qui a accompagné et formé. Et on a fait 3 petites demi-journées de formation avec ceux qui voulaient.
C'est Ali qui les organise.
Ouais. Mais c'est bien, je me rends compte de ça, merci de poser la question, Marie, c'est bien que ce ne soit pas moi, en tant que tel, qui soit partout, et trouver les bons partenaires. Mais là, on a de la chance, la cathédrale, d'avoir quelques richesses, peut-être dans le rural, on n'aurait pas. Bon, une Annie qui est formée, qui est d'accord pour y aller. Et puis Annie, l'avantage qu'elle avait, ça c'était génial, c'est qu'elle arrivait. Donc, quand tu arrives, elle pouvait se permettre, même je vais glisser quelque chose, de dire des bêtises, ou de dire à une, ah, mais, de dire à Mme Untel, mais connais-nous, ou à Monsieur Untel, comment tu fonctionnes, etc. Et maintenant, elle ne pourrait plus le faire, parce que maintenant, demi qu'elle est là. Mais au début, donc on a bénéficié de ces deux acteurs-là qui ont été intéressants. Et que, de fait, ça nous bouscule.
Vous avez commencé par la prière. Moi, je pense
que
le socle alpha, on insiste beaucoup là-dessus, la fécondité de toute action de formation, de mission, c'est la prière. Et Dieu vous a équipé. Vous a donné les personnes dont vous aviez besoin.
Et on a eu le jubilé de Saint-Vincent-Ferrier.
Aussi.
Je dois reconnaître que d'avoir eu le jubilé de Saint-Vincent-Ferrier, d'avoir réveillé la carrière de Grégoire, mais d'avoir illuminé, de l'avoir, d'avoir eu beaucoup d'activités diverses et variées, à redorer pour la cathédrale a donné à la paroisse, vous voyez, une croissance et une amitié et une joie et un sentiment d'appartenance. Oui, je veux dire comme ça. Et à quelques jeunes, alors ce qui est génial, c'est que prochaine fois, on va faire une mission plus sur un week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et on va embarquer les jeunes générations. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est quand même plutôt des jeunes retraités qui font du porte-à-porte. Bah, du lundi au vendredi, que voulez-vous, ça passe autrement, quoi. Mais il y en a qui sont venus, moi j'ai admiré, il y a deux couples qui ont pris leur vendredi, une fois, et qui nous ont suivis à Clairvallon à faire du porte-à-porte. Alors Marie-Lix Rocoplo, qui travaille à la radio, elle nous a suivis à la radio. On était, les gens, donc il y a eu des accueils, après elle avait sa radio pour montrer du direct sur du porte-à-porte.
Ah bon, vous l'avez médiatisé, quoi.
Alors, on l'a médiatisé de la radio de Suzanne, ouais, parce qu'il voulait, elle voulait de la radio donner un exemple de ce qui se faisait pendant le temps de l'Avent. Alors, je voudrais aussi qu'on se mette bien d'accord. Je n'ai jamais pensé que les exemples que je vous donne sont l'apanage, et les seuls outils d'évangélisation, voilà, hein. Il y a plein d'autres. Une équipe de funérailles fait une très belle évangélisation près des familles en deuil. Une pastorale des baptêmes, qui sait accueillir des gens sur le seuil, fait une très belle aussi. Alors, on va dire qu'il y a une première annonce. Vous voyez bien, première annonce. Comment une... Quand je vais à l'école le vendredi matin, à l'école Jeanne d'Arc, j'espère que je fais l'évangélisation. Enfin, faut pas non plus... ce sont des moments particuliers, on est d'accord, hein. Ce sont des styles et des manières particulières. Je vois Grandchamp commence une semaine missionnaire là, il y a si peu de temps, il bénit les animaux demain après-midi. Bon, moi, ce serait pas trop mon truc, mais bon, quelqu'un qui est à l'aise. Donc, il faut rejoindre les gens là où ils en sont. Voilà, samedi dernier, j'avais 25 parents sur le thème du pardon. Les enfants qui se préparent à la première communion. Cathé des enfants d'à côté, moi avec les parents de l'autre. Et ce que je trouve beau, c'est que certains parents sont venus se confesser après. Une maman me dit, moi je ne me suis pas confessé depuis que je suis ado. Ça aussi, c'est un vrai moment d'évangélisation. Faut pas, je ne voudrais pas que vous pensiez que ces deux exemples-là sont l'alpha et l'oméga et l'apanage d'une évangélisation réussie.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on peut remplir notre rôle de disciple missionnaire sans pour autant être dans cet exercice spécifique.
Oui, ah, complètement. Et le disciple missionnaire...
Si on a besoin de passer par des choses qui sont un peu plus discrètes, même si c'est contraire au texte, où en fait on est censé être préparé à avoir affaire à la dureté en tant que croyant, à la dureté des gens qui s'opposent à ça, je suis pas obligée de passer, de me mettre dans le dur, quoi.
Soyons bien clairs, je n'ai peut-être pas assez bien dit ça. Le Saint Concile Vatican II nous dit que le premier engagement du chrétien, c'est dans le monde. Non pas du monde, mais dans le monde. Et être disciple missionnaire, c'est être disciple missionnaire dans le monde. Et lisez le très bon bouquin, ah oui, lisez, de Fabrice Hadjadj, L'aubaine d'être né en ce temps. L'aubaine d'être né en ce temps. Ça vous évitera des nostalgies d'un temps passé et de dire qu'avant tout était meilleur et que maintenant tout est foutu, c'est faux. Et l'aubaine d'être né en ce temps, vraiment lire ça, c'est super. Et qu'est-ce qui est dit? C'est que nous sommes chrétiens dans le monde, et moi aujourd'hui, par contre, ma grande préoccupation suite à la visite pastorale de Vannes, c'est qu'on soit présent dans deux lieux que les congrégations ont donné à voir dès le 19e siècle, le monde de la santé et le monde de l'école. Et aujourd'hui, comment on va former des chrétiens dans le monde de la santé, mon Dieu, avec toutes les mutations anthropologiques que l'on a aujourd'hui. Moi, j'ai des médecins dans ma paroisse, Pour moi, je ne leur demande pas en premier de faire le trottoir pour faire sourire dans la cathédrale. Et je préfère qu'ils se forment pour être un médecin chrétien. Pas qu'ils disent à une personne malade « Jésus est vivant », mais pour qu'ils aient une manière chrétienne de respecter l'homme dans toutes ses dimensions. Alors, une manière chrétienne est qu'ils soient formés aux questions de début et de fin de vie. L'enjeu aujourd'hui va être, vous savez très bien que toutes les questions de fin de vie sont en train de se faire remodeler. Donc si on n'est pas clair dans sa tête, dans son esprit, et pas formé sur ces questions, c'est compliqué. Aujourd'hui, être prof, ben moi je vais dire à un prof, non, c'est pas forcément en premier de venir faire la lecture à la messe de dimanche, quoique, ou de faire le parvis, ou de venir frapper à la porte à Clairvallon. Forme-toi sur ce qu'un enseignant, un éducateur, et la promotion de la personne humaine, c'était propre dans l'enseignement catholique, par exemple. Forme-toi. Laisse-toi convertir. Accompagne-toi. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne spirituellement plusieurs jeunes générations qui ont besoin de faire du lien entre leur vie et leur foi. De trouver du sens, de lire, de se former, de s'informer pour mettre du lien, de l'unité entre le cœur et la raison. Entre la volonté et l'intelligence. Et ça, c'est un deal très important. Et le premier rôle du chrétien, c'est pas forcément, je le redis, d'être derrière l'autel pour faire les funérailles à la place du prêtre, ou d'être sur le parvis, c'est d'être disciple missionnaire là où il est, dans sa famille, dans son travail, dans sa vie de tous les jours, et de surcroît, dans des activités paroissiales. Mais ce qui m'ennuie, c'est que parfois certaines jeunes générations, elles se réfugient, derrière des choses un peu d'église, pour ne pas voir le monde tel qu'il est. Et moi, je vous en supplie, on ne peut pas ne pas aimer le monde. Alors attention, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, non pas pour juger ou condamner ce monde, mais que par lui ce monde soit sauvé. Nous savons que le monde mondain, au sens malin, existe. On n'a pas tombé dans le piège, on a discerné. Et moi, je rêverais que les chrétiens, qui sont trop souvent des chrétiens de la manif, soient plus des chrétiens de l'anticipation, et puis soient des chrétiens portés sur la vie, et qu'on regarde ensemble, qu'est-ce qui nous fait vivre ? Il ne faut pas rêver, nous serons minoritaires, mais nous serons des minorités créatives, créatrices, et pas des minorités défensives. Et certains symptômes, chez certains jeunes couples, j'ai peur qu'ils se forment plus pour être des minorités défensives, recluses, parce que le monde est mauvais, qu'une minorité créative, au cœur d'un monde que le Seigneur a créé quand même, et dit que cela a été beau, et comment être le vin dans la pâte, sel et lumière, sans être prosélyte, dans ce monde-là. Et nous serons toujours à contre-courant. Alors, ce qu'il y a, il faut qu'on accepte le combat. Alors, lisez un très beau bouquin que j'aime beaucoup, pardon, je vous donne des références. Il faut lire le Père Jacques Philippe, La liberté intérieure. Le Père Jacques Philippe, La liberté intérieure. Je crois que tout ce que je vous ai dit, si on n'a pas acquis un minimum une paix intérieure, si on va uniquement pour le combat, pour le prosélytisme, ou pour convaincre les autres, ce n'est pas la peine. Éloi Leclerc, Sagesse d'un pauvre. Encore un livre à lire. Pardon, c'est 1999. Non, mais dans quelques références, si vous avez du temps, lisez ce genre de... Et vous verrez que... Encore un autre livre. Une pasteur protestante que j'aime beaucoup a écrit un bouquin « L'intranquillité ». Il faut qu'on accepte l'intranquillité. Je n'ai pas dit la non-paix. L'intranquillité, ça veut dire que depuis le soir de Pâques, Christ a dit « La paix soit avec vous, allez, faites des... » Mais est-ce que vous avez vu que c'était la croisière s'amuse depuis le début ?
Non, je vois mieux des loups.
Voilà. Mais il ne faut pas voir des loups partout, pardon, parce que je vois certains... On n'est pas dans la reconquête pastorale, ça n'existe pas. Maintenant, on n'est pas dupes, on sait qu'il y a des forces du mal, on sait aussi que le christianisme peut attaquer, on sait aussi que, malheureusement, les membres de l'Église ont beaucoup péché. Et ce n'est pas l'Église qui doit être convertie, c'est les membres de l'Église qui doivent être purifiés, lavés, convertis, pour être à l'image de l'Église sainte et irréprochable devant Dieu. L'Église, elle est sainte parce qu'elle est voulue par le Christ. Un évêque, il a récemment prié pour la conversion de l'Église. Désolé, mais il est hérétique. Il est hérétique on ne prie pas pour la conversion de l'Église, que Jésus a voulu son Église, elle est sainte et voulu pas. Par contre, prions pour nous, qui sommes les pauvres membres du corps de l'Église, et qui dénaturons tellement facilement l'amour du Christ qu'il nous donne, et qu'il ne faut pas se tromper de combat, mes amis. Il ne faut pas tromper, faut pas se tromper de combat.
Vous avez deux, trois fois utilisé le mot prosélyte.
Oui.
Est-ce que saint Paul ne faisait pas, du prosélytisme ? Enfin, c'est pour ça que j'aimerais qu'on clarifie ce mot-là, et cette position qu'on a.
Alors, non, saint Paul, il faut l'expliquer par sa culture, par son style, par son histoire, par d'où il vient. Et saint Paul, c'est un converti. Et quand il tombe de cheval, il passe quand même de bouffer du curé à 200%, non, mais on parle comme aujourd'hui, à annoncer la bonne nouvelle, et que saint Paul, c'est un mec qui... un peu carré. Et on voit petit à petit, sur la fin de sa vie, ça s'arrondit. Parce qu'au départ, vous savez, j'y vais, et il a eu raison d'y aller. Il a converti les foules. Et puis, il y a les premières épreuves, les premières épines. Vous savez, c'est comme les jeunes prêtres. Moi, ce que je veux apprendre aux jeunes prêtres, c'est à consentir à la croix et accepter les premières défaites. C'est pas glamour, S'ils sont pas capables, s'ils pensent que c'est la reconquête, qu'ils sont les meilleurs et les plus beaux, et que leur liturgie va emporter sur celle, c'est cuit. Est-ce que vous comprenez ? Saint Paul, il tombe de son cheval, mais dans une culture juive, raide, la loi, d'ailleurs, lui-même dira, je porte dans mon cœur, passer de la loi à l'esprit. Et saint Paul, petit à petit, quand on voit son itinéraire, quand il arrive à Rome, il passe lui-même de la loi à l'esprit. Alors, il ne rend pas les armes, il s'abandonne. Il n'abandonne pas, il s'abandonne. Et il a une rigueur. Au début, un peu de raideur. Mais on connaît tous des convertis, parfois. On chante un converti qui m'a dit une fois que j'étais un curé très fade. Peut-être qu'il avait raison, Mais, alors, le prosélytisme, ce serait de vouloir imposer à l'autre ce qui est contraire à sa liberté de conscience. L'annonce explicite, c'est de dire librement « Voici celui en qui je crois ». Et comme dirait si bien Saint Bernadette son curé, « Je ne suis pas chargé de vous faire croire, chargé de vous le dire ». Alors, et j'ajouterai ceci avec les mots de Marivin et son style, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais de la gueule que l'on fait. Et c'est pas tant ce qu'on dit que la manière dont on le dit qui compte. Saint Paul, c'est un fougueux. Saint Paul, c'est le missionnaire. Et saint Paul, il tombe de son cheval, petit à petit, hop. Ben nous, c'est pareil. Vous savez, moi, je ne suis plus prêtre de la même façon que j'étais il y a 22 ans. Et je suis même Patrice Marivin. Bougé par le Seigneur, bougé par les événements de la vie, par les joies, par les difficultés, par les croix, peut-être par les déceptions aussi. Voilà. Mais toujours dans la joie d'être serviteur. Et dans la joie de transmettre, et on a une joie qui nous fait transmettre la bonne nouvelle du Christ, mais on ne peut pas l'imposer à l'autre, mais on peut le dire et on peut le caresser les blessures, dit le pape François. Enfin, on peut le dire avec délicatesse et vérité à l'autre.
Mais alors, par contre, vous êtes bien d'accord avec ça ? C'est-à-dire que, comme disait, enfin, j'ai entendu ça, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, mais Paul Claudel disait, vous avez fait du sel de l'évangile du sucre.
Oui.
Voilà, donc, il faut faire tout ça, mais sans pour autant édulcorer la parole du Christ, d'accord ?
C'est
d'accord avec
et
ça.
C'est la parole de Dieu qu'il faut annoncer. Il est vivant, il est ressuscité, voilà ce qu'elle me dit. Voilà comment elle frappe à mon cœur. C'est votre témoignage qui va compter, c'est-à-dire que vous n'allez pas énoncer des principes. C'est-à-dire, voilà comment la parole, elle frappe à mon cœur. Voilà ce qu'elle a transformé chez moi. Bon, j'aime beaucoup le chant. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant, alléluia. En quoi il a changé ta vie ? En quoi il a changé ton cœur ? Et ce ne sera pas du sucre. Parce qu'on voit à travers ta vie, à travers ton regard, ta tête, ton style. Ben oui. Pourquoi il... Moi, quand Malo, il me pose la question hier, il me dit, Patrice, mais pourquoi tu es devenu prêtre ? Il vient de perdre son père qui est de mon âge. Et il me demande, après une année, pourquoi tu es devenu prêtre ? Je réponds. C'est quoi te... Ah, mais dis donc, t'as plein de situations comme papa. Non, j'ai des joies, j'ai des peines. Ben oui, tu as vu, je mange chez toi, etc. Voilà. Faire en ce... qui disait « Ne dis rien, mais fais en sorte qu'on te pose la question. » Enfin, ne sois pas dans le « Fais en sorte qu'on te pose la question. » Et qu'on te la pose avec intelligence, dis « Celui en qui tu crois. » Voilà. Dis « Celui en qui tu crois. » Il faut accepter l'intranquillité, vous voyez, il faut accepter le déjà-là et le pas encore. Très théologique, ça. Le déjà-là, parce que nous sommes sauvés, vous et moi, nous croyons au ciel, nous croyons la vie éternelle, c'est maintenant. Vous et moi, nous croyons que nous sommes invités à aimer en acte, en vérité, et que par notre baptême, nous sommes recréés dans l'amour de Dieu. Mais il y a le pas encore, au sens où ce n'est qu'à l'heure de notre mort où nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et que, est-ce que vous voyez tous les passages qu'il y a dans la Bible ? Le carême, c'est ça. Les passages, tous les passages.
C'est ça.
Regardez les 40 ans. Méditez demain l'évangile de la transfiguration, c'est génial. C'est génial. La montagne, le lieu de la révélation, le lieu de la prière, le lieu de la consolation, le lieu de l'intériorité, le lieu du renversement. Élie et Moïse, Jésus n'invente rien, il vient accomplir l'Ancien Testament. Et il vient donner à voir à ceux de l'Ancien Testament qu'il est le sauveur auquel ils espéraient.
Pourquoi vous dites renversement ?
Renversement au sens où ? C'est ça, comment la vie chrétienne ? Renversement, je pense à j'ai visité 3 femmes de ma paroisse qui se sont cassées la figure comme du fémur au ski récemment, à montagne. On est renversé en montagne. Je vais donner comme exemple. On est renversé en montagne. La montagne, c'est le lieu de la révélation, uniquement. C'est le lieu de la transformation, c'est le lieu où on rencontre le Seigneur. Prendre la hauteur. Mise à l'écart et hauteur. Il est bon que nous soyons ici. Mais notre vie chrétienne, elle n'est pas toujours dans les montagnes. Après, il faut redescendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. On redescend dans la plaine et on va vivre au quotidien l'expérience qu'on a vécue sur la montagne. Vous voyez le cas des JMJ, par exemple. Moi, j'ai vu plein de jeunes au JMJ qui applaudissaient à Saint-Jean-Paul II, mais ils applaudissaient plus le messager que le message.
Oui, c'est ça.
C'était la star qu'on applaudissait. Et après, ils pouvaient coucher ensemble dans le coin de la prairie, là-bas, alors que le pape avait parlé de la pureté du cœur, etc. Donc, c'est comment lier le message au messager. Et comment les JMJ, c'est pas uniquement tous les 3 ans, ma petite dinette spirituelle monte en fort, mais comment faire des JMJ tout au long de ma vie, quoi. Et ça, c'est du combat. Ça, c'est d'accepter d'être intranquille, c'est d'accepter que la vie chrétienne, c'est une aventure, c'est un combat, c'est une joie, c'est une traversée, c'est une purification, et qu'on n'y arrivera réellement qu'au ciel en paix. Ah.
Moi, ce qui me plaît bien, Père Marivin, c'est que vous avez fait confiance à Dieu, vous avez fait confiance aussi à votre paroisse. Et en fait, il y a eu un engagement réel de la communauté paroissiale. Oui. Et je me dis que le témoignage aujourd'hui qu'on peut donner au monde, c'est d'être ensemble, d'être cette communauté, cette fraternité. Le pape insiste beaucoup sur cette fraternité vécue. Et voyez comme, vous l'avez évoqué, voyez comme il s'aime. Et je pense que le fruit de... parce que ça s'est étalé dans le temps, on voit bien que le combat a été mené sur...
Et en
même temps, le fruit, c'est qu'il y a une communauté qui est capable d'être disciple missionnaire. On ne peut pas l'être tout seul et vous avez mis en place ce qu'il fallait pour que les gens soient forts. Enfin, les 5 vitamines dont vous avez parlé.
Les 5 vitamines, oui.
Et alors, la question, ça, justement, est-ce que vous avez l'impression que dans tous les services, que vous avez une trentaine de services,
là, oui.
Ils vivent vraiment de ces 5 vitamines vous avez...
Je crois. Alors, aujourd'hui, je crois.
C'est en place.
Ça. La grande paix que j'ai, et ça, c'est vraiment le Seigneur donne ça, c'est que on a acquis cette culture commune qui fait que chacun n'est pas que spécialiste dans son domaine. Ouais. Mais et on a provoqué là dans le synode des visitations interservices. C'est-à-dire que j'ai demandé à ce que dans la réforme synodale, la pastorale des baptêmes rencontre la pastorale des funérailles. Des visitations,
ouais.
Ils ont apprécié. Ah oui, parce qu'on se voit à la messe, on se voit en début d'année, on se voit, mais dis donc, ça passe vite, on se voit pas si souvent que ça. Donc ça crée aussi de la culture commune. Et les gens ont besoin de se connaître. Dimanche dernier à la messe. Quelqu'un me dit à 9h30, ma père, l'exercice vous a demandé au départ à 20 minutes à causer à son voisin. Moi, je préfère écouter une homélie, même si elle est longue. Sourire. Ouais, mais une personne a découvert que ça fait 8 ans qu'elle était à côté d'une. 8 ans qu'elle était à côté d'une personne dont elle ne savait même pas le prénom. Ah oui, tu t'appelles Bernadette ? Tu habites tel endroit ? Ah oui. Donc, déjà ça, ça a permis ça déjà ?
Bien sûr.
Dimanche dernier, très humblement, dans une paroisse comme la nôtre. Donc, vous imaginez, il y a encore du. Il y a beaucoup de chemin à faire.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il faut se donner. Moi, moi ou un autre, hein, mais la paroisse cathédrale, si je ne m'étais pas donné, moi personnellement,
oui, c'est ça.
J'en donnerais pas.
Moi, je pense
ça veut dire que. Mais il ne faut pas qu'ils sentent que leur curé est partout parce que c'est insupportable, ou qu'il fait tout, mais ils ont besoin de sentir le pasteur qui, au large, avec un peu d'humour, qui taquine et qui dit alors on y va, et on y va ensemble. Moi, j'ai entendu une fois me dire vous commencez à nous embêter, mais bon. Je ne sais pas si vous troquez le ciel. Hein. Faire un coup d'humour de temps en temps, dire d'accord. Mais au ciel, on verra bien. Ce qui a été pas facile, c'est quand moi, au bout d'un mois, je voulais repartir à guerre. Hein. Je vous confesse. Hein. Déjà, quand l'évêque m'avait annoncé, c'était, moi, j'étais bien à guerre. Vous savez, on est bien dans nos. J'étais bien. J'avais été 10 ans sans paroisse. J'ai découvert enfin ce que la paroisse, c'est la première année, j'avais galéré un peu à guerre. J'ai dit, ah non, pas ça, quoi. Et je savais que la cathédrale, c'est qu'il y avait à boire et à manger. Et il m'était dit, oh non, non, non. Et l'évêque me dit, je souhaite que ce soit vous qui veniez là. Ça rend raison. Quand il m'a sorti le couplet de l'obéissance, vous connaissez Raymond Centaine, il parle peu, mais quand il vous dit, chacun.
Il dit juste en face chez moi, il y a une petite rue qui fait 3,50 m de large. Donc on s'est fréquenté un petit peu au début. Ils sont arrivés il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être 3 ans, peut-être 4 ans maintenant. Bon, bref, et ce sont des gens, c'est un couple, ils sont divorcés, remariés. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais en revanche, ils ont eu des enfants avant, chacun de leur côté. Et quand ils sont arrivés, moi je n'ai pas encore converti, je me suis converti entre-temps. Et mon questionnement, ça a été, enfin, j'ai pas trouvé de réponse, et puis je n'ai pas cherché à les convertir. Hein. Ils savent bien que je me suis converti récemment, etc. On a discuté beaucoup de Dieu et tout ça. Lui, Pascal, il a été élevé chrétiennement, hein, il est baptisé, confirmé, tout ça, mais aujourd'hui, il a envoyé tout ça balader. Et quant à son épouse Angélique, eh bien, elle se dit plus ou moins passeuse d'âme. Voilà. Donc, il y a une espèce de quelque chose, quand même, hein, de plus ou moins spirituel et tout ça. Mais par contre, la question que je me suis posée, je me suis dit, mais voilà, tu es confronté à des gens comme ça. Tu vas leur apporter la parole du Christ et tout ça. Tu vas leur parler un peu de saint Paul, de comment il faut vivre chrétiennement, etc. Et ils sont divorcés et remariés. Est-ce que s'ils se convertissent, imagine qu'ils se convertissent, qu'ils tombent dans le chaudron et que d'un seul coup, ils se disent mais qu'est-ce qu'on a fait depuis tout ce temps? On est divorcés, remariés, mais on vit dans le péché en réalité. Et je me suis dit, mais est-ce que tu ne vas pas mettre le bazar dans leur vie finalement? Et ça, c'est un cas de conscience. En
fait. Si c'est le bon Dieu, non. C'est pas vous qui allez mettre le bazar. Ça ne nous appartient pas. Vous aurez été le facilitateur, peut-être, le témoin, malgré vous, avec vos faiblesses, comme moi. Je peux être témoin avec mes faiblesses.
Et puis Dieu accompagne ce couple.
Vous savez,
dans son histoire.
Le bon grain est livré. Voilà. Et si c'est le bon Dieu, non. Il faudra juste. Que vu leur histoire blessée, si par exemple ils voulaient discuter autour de leur histoire, qu'ils trouvent le bon interlocuteur pour être à la fois dans la vérité et la miséricorde. Psaume 84. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Quand mon jeune couple d'homosexuels vient me voir il y a 3 semaines, c'est rare que je dise ça à l'accueillant, j'ai dit à l'accueillant vers 9h30 du matin, j'ai un travail de fond à faire. Si possible, ne pas me déranger jusqu'à 11h. Ce que je dis rarement, ou je suis au rendez-vous, autre chose, j'avais un travail de fond personnel à faire. Et heureusement, intelligemment, l'accueillant a senti Père Patrice, est-ce que vous voulez bien descendre? Et je sais que je l'ai descendu, elle l'a vu, on a pris un temps ensemble, et j'ai commencé par les écouter. Par les écouter jusqu'au bout. Par les laisser faire leurs demandes, et j'ai dit oui. Ils m'ont regardé. Et m'ont dit, ben, on est dans une autre paroisse, on nous a dit non. Ben, je dis, je ne veux pas contredire mon collègue, mais le salut de votre enfant passe par son baptême. Donc je ne commence pas par regarder votre état de vie, je commence par regarder votre enfant. Et après, du coup, ben, y a la confiance qui est venue. Et après, petit à petit, on a même parlé de l'enseignement d'église, ce qu'elle dit, et eux-mêmes étaient à côté de la plaque par rapport, parce qu'on dit que, non, c'est pas ce que dit l'église là-dessus. C'est peut-être beaucoup plus exigeant, mais différemment. Donc, non, alors, laissez le Seigneur se préoccuper. Nous, parfois, on est... Alors, voilà, il ne faut pas confondre efficacité et fécondité. Moi, quand j'apprends que la brave dame, depuis mon passage avec une autre personne, avait bougé complètement, je ne savais rien. J'avais peut-être été fécond, ou le Seigneur avait été fécond à travers moi, mais je n'en savais rien. Après, peut-être que vous allez faciliter des choses. Il faut juste espérer que les membres de l'Église qui vont rencontrer, parce qu'on passe par là, soient inspirés pour bien les accueillir, bien les guider, bien les accompagner. Et parfois, on n'est pas très bon là-dessus. Sur les sujets un peu, on n'est pas... Alors on est mal à l'aise nous-mêmes, quoi. Donc, non. Priez pour eux. Confiez-les. Et puis, s'ils font une démarche, priez pour que... Voilà. Mais c'est pas vous qui aurez la plus-value.
Non.
Justement, il ne faut pas qu'il y ait de plus-value.
Et quelquefois, les personnes trouvent elles-mêmes des ressources. Oui. Il suffit qu'on les accompagne dans le désir de réfléchir ou de, voilà, de clarifier leur situation. Et après, ils trouvent elles-mêmes.
Oui, il y a un prêtre qui m'a dit récemment, ce n'est pas vous qui convertissez, c'est le Seigneur qui convertit.
Ben oui. Alors maintenant, on est les
instruments.
Mais voilà.
En même temps, moi j'entends bien ce que tu dis, et en même temps, et ce que vous dites, Père Marie-Vin, c'est que dans l'Église, il faut qu'on soit assez formé aussi pour pouvoir orienter avec justesse.
C'est ça.
Parce que c'est vrai que les gens sont blessés déjà de ce qui est dit dans les médias, de ce de etc. Et donc, il faut prendre soin. Moi, j'entends bien aussi ce que vous dites, c'est-à-dire que quand vous permettez au cerveau de mieux se connaître, c'est continuer à prendre soin de ceux à qui on annonce. C'est important, ça. Et Alpha, nous, on est en train vraiment de s'interroger là-dessus. Après Alpha, qu'est-ce qu'on propose? Il faut vraiment accompagner, parce que sinon, on les rend encore plus vulnérables. Quelque part, ils ont fait une rencontre forte avec Dieu, et après, ils voient une église qui ne correspond pas à leurs besoins. Donc, il faut vraiment continuer.
D'où nous, on travaille avec ça, on est rendu à plus de 10 fraternités paroissiales sous la paroisse cathédrale. Et là, voilà. Oui, on pourrait dire que c'est le processus d'une église en croissance, pour le coup, que l'on vit là, nous, sous la cathédrale, mais c'est un lieu, hier encore, encore un jeune m'a dit, bah, père, j'ai bien compris l'utilité que je sois en fraternité.
C'est ça.
Et il me dit, moi, je bosse à fond, 7h à 20h tous les jours, c'est dingue. Et je vais à la messe tous les dimanches soirs, mais je vois bien que si je n'ai pas un lieu avec d'autres chrétiens, j'y arriverai pas. Ce que le pape François, pape Benoît appelle les oasis d'espérance. Alors, attention, pas des minorités recluses, pas des clubs où on pense bien entre nous. Il y a des risques, y compris chez moi, de petite mondanité, où on est bien entre nous, on prend l'apéro, et puis on pense pareil les uns, et du coup on se rassure. Non ? Alors moi je parle de ça. Si vous croyez qu'on va fonder ça, ça ne marche pas. Donc,
Oui, mais on est confronté à cette espèce de quadrature. C'est-à-dire qu'on a appris des choses, on s'est imprégné par l'Évangile, Saint Paul aussi, tout ça, et on est confronté à notre monde aujourd'hui, et on se dit, voilà, il est tellement parti de travers depuis longtemps, que est-ce que c'est rattrapable tout ça ? Et comment ça peut l'être ? Et jusqu'où ça peut être rattrapable ? Et après on se dit, ah mais moi je me suis modifié, je me suis transformé, ça s'est fait même tout seul, même intellectuellement j'ai pas fait grand chose, et finalement j'ai peiné, mais je veux dire, certainement par rapport au changement, certainement peiné beaucoup moins que j'aurais dû peiner si j'avais fait ça tout seul. Et peut-être tout seul, j'aurais pas réussi. Et on se dit maintenant, eh bien, on va aller se coltiner, entre guillemets, à des gens qui sont encore très loin, mais est-ce que ça va pas me faire agresser? Est-ce que ça va pas me mettre en danger? Est-ce que je vais pas retourner finalement à des choses que j'ai connues avant? Est-ce que je vais arriver à accepter, à regarder comment sont les autres aujourd'hui parce que j'étais comme ça avant? Voilà. Donc ça nous ramène aussi en arrière. Et puis à un moment donné, quand on réfléchit aux évangiles et qu'on regarde ce qu'il y a dedans, on se dit, ah ben oui, mais dans les évangiles, finalement, tous les cas de figure qu'on connaît aujourd'hui, ils sont décrits déjà dans les évangiles. Mmh. Je pense à la je ne me suis pas trompé, la Samaritaine auprès du puits, c'est ça.
Oui, c'est
qui a plusieurs maris, etc. Voilà, bon, par rapport, bon, voilà. Donc en fait, finalement, on a les bras qui nous en tombent, finalement, quand on...
Mais Stéphane, vous n'êtes pas seul, vous êtes en église. C'est ce que vient de vous évoquer, le père Marie-Va. Une fraternité peut vous soutenir dans votre marche. Vous n'allez pas seul sur le front. Vous êtes avec l'église. L'église est une mère. Et là, moi, je trouve que c'est formidable, le témoignage que vous nous donnez par Marie-Va. Et je me dis, mais est-ce que d'autres confrères prêtres ont entendu ce qu'on entend là ce matin? Je regrette qu'on ne soit pas si nombreux, j'aurais aimé amener toute ma paroisse.
Ben oui, mais après, on est chacun. Puis après, voilà, on est mariés à la même église, tous les prêtres. Donc, on n'a pas le même charisme, même talent. Puis moi, je dis ça avec beaucoup de. Attention, d'humilité. Il y a d'autres qui font d'autres choses autrement et qui le font peut-être plus discrètement que moi et qui est tout aussi fécond. Attention, il ne faut pas être. Je réponds à la question confiance. Qu'est-ce que dit Jésus? Tempête apaisée. Confiance, n'aie pas peur. Passons sous l'autre rive. Nous ne réglerons pas tout. Vous savez, moi, je dis souvent en blaguant la cathédrale. La place de Sauveur est prise depuis 2000 ans, elle n'est pas à cet endroit enviable.
Elle n'est pas ?
Non, mais elle n'est pas enviable à cet endroit. Donc, il est notre Sauveur, c'est lui qui a tout donné par amour pour nous. Vous voyez, hier soir, j'ai une préparation de mariage avec Paul-Henri et Marine, qui font un sacré bout de chemin. Vraiment, je suis admiratif du bout de chemin que le Seigneur permet de faire dans cette préparation de mariage. Puis lui, je lui dis, écoute, seul Jésus a pu verser son sang par amour pour nous. Hier, on a chanté à la cathédrale, puisque tu fais miséricorde, puisque nos cœurs sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous. Seigneur Jésus, exauce-nous. Il n'y a que lui qui a pu verser son sang par amour pour nous. Nous, on peut se donner par amour pour lui, on peut se livrer, mais on ne peut pas, comme lui, voilà. Lui, il a pu se vider. Fils de Dieu, mais nous, on ne peut pas se vider si on s'épuise. Et fatigué, on est fatigant. Et donc, il faut qu'on accepte la tranquillité, qu'on accepte la confiance que Dieu nous donne, et que nous ne referons pas le monde, quoi qu'il se passe, et au ciel, peut-être on en sourira en disant « Mon Dieu ». À l'époque de Jésus, regardez, c'était... Quand vous avez médité la semaine sainte, qu'est-ce qui se passe, les rameaux ?« Hosanna !» La foule est en délire. Hein. Elle se renverse. Rien de nouveau sous le soleil. Et la barque, depuis 2000 ans, n'a jamais coulé. Et Dieu sait pourtant qu'elle vient encore voir une sacrée faille dernièrement avec tout ce qu'on sait. Elle tient bon parce qu'elle est du Christ, parce qu'elle est de l'Esprit, et parce qu'on a s'abandonné, et qu'on accepte effectivement des minorités créatrices. Et on ne pourra pas rester seul, vivre des amitiés, partager ce que l'on est. Et pour vous, comme nouveau baptisé, c'est très important ça. Moi, mon souci, aujourd'hui, c'est le suivi des catéchumènes, le service après-vente, pardon, le service après-vente des catéchumènes. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis fier, on baptise Bleuen et Céline, deux femmes super, à Pâques. Mais si elles rentrent en fraternité, c'est mort, c'est cuit, c'est foutu. Et j'ai convaincu son mari l'autre jour, qui bosse beaucoup, je lui ai dit, Olivier, il faut que tu rentres en fraternité avec ta femme. Parce que si tu l'aimes, c'est à ce prix-là que tu vas l'accompagner. Et elle souhaite vivre quelque chose de conjugal, elles n'osent pas le dire parce que tu... Vous avez raison, Père Marie-Va. Mais il faut faire de la pédagogie différenciée, sans s'user, et puis se dire que les journées ont 24 heures, il faut dormir. Le Seigneur compte son bien-aimé quand il dort, psaume 126, et que nous ne sommes pas le Sauveur. Par contre, il compte sur nous. Il compte sur nous, pas pour reconquérir, pas pour tout faire, mais pour identifier les lieux, les moments où les temps où il est bon, d'une de se ressourcer. Moi, je vois bien, comme prêtre, j'avais 3 jours à Pennebock le mois dernier, il était temps. Il était temps parce que je fatiguais et que j'étais à limite, comment, pas burn-out, hein, pas déprime, mais fatigue parce que, à force de se donner, savoir se nourrir, se former, se laisser déranger aussi. Je vois quelques coups dans la paroisse qui. Je leur dis, c'est bien le thé à 4 heures de l'après-midi chez M. Lamuntel, hein, pour dire du bien d'ailleurs des autres, d'ailleurs, toujours. Enfin, toujours. Mais j'ai dit, mais... Allez, vous nous embêtez avec ça? Ben oui, mais...
Pourtant, l'entre-soi, c'est vrai que c'est très tentant. Hein. Se congratuler ensemble, et puis, etc. Oui, c'est vrai. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais comment sortir de ça? Enfin, en tout cas, ne pas y tomber.
Les fraternités, ce n'est pas de l'entre-soi, c'est être frère et sœur en Jésus-Christ pour se nourrir à la même parole, à la même table et se soutenir mutuellement.
Je viens d'intégrer une, là, seulement maintenant, je vous avais demandé, oui. Après mon parcours alpha, donc à plus d'enfants, ouais, comment intégrer une. Moi, ça me brûle énormément parce qu'autour de la table, il y a des personnes que je n'aurais pas l'occasion de fréquenter.
Ben oui.
Et ça me demande de me taire, ça me demande de ne pas, de pas tenter d'expliquer à l'autre, mais juste d'accueillir. La personne, elle est déjà là, c'est extraordinaire. Mmh. Il était beaucoup plus fort dans sa foi que moi, même si entre guillemets, dans le comportement, voilà, parce qu'on parle des choses du monde, parce que voilà, mais c'est, je me considère que c'est que mon vivant. Bref, ça me fait travailler. Et donc, dans le fait que ça me fasse travailler, ben, je me dis, ben, là, quelque part, je suis en train de rencontrer, moi, à mon niveau, je chemine en me taisant, mais déjà, je chemine, en fait. Donc, je me transforme, j'accepte de me transformer. Et c'est très, très dur parce que ben, j'ai besoin d'être bien aussi dans les endroits où je suis. Ma boussole, c'est la joie, et de plus en plus, du coup, je vais faire attention d'être avec des gens avec qui j'éprouve ça. Et en revanche, pour donner un témoignage qui vient renforcer ce que vous dites là, parce que ça s'est un peu éclairé pendant que vous parliez, je suis dans des milieux où, très souvent athées, plutôt au niveau intellectuel. Et là encore, dernièrement, donc je sortais d'une retraite silencieuse avec la communauté CPR de Beuzy, mais j'étais à Chabeuil là, et j'ai rejoint un groupe d'amis pour passer un week-end avec qui j'avais fait une formation. Et dans ce groupe d'amis, donc il y a des super athées, hein, super athées, et très intelligents, etc. Et en fait, comme ils étaient quand même curieux de ce que j'avais fait avant, ils m'ont posé des questions, et en fait, de ces questions-là, ils sont venus me poser des questions par rapport à des choses qui les choquaient dans les propos de la chrétienté. Et donc j'ai fait effectivement, je ne fais que répondre à des questions, témoigner de ce que moi je vivais. Et en fait, je suis tellement prise d'émotion, je touche quelque chose de tellement plus vrai chez moi. Même moi, je me reconnais pas. Je sens vraiment de la dureté dans laquelle j'étais presque dans les 40 dernières années. Et c'est dans ça, en fait, je crois qu'il y a des personnes qui vivent quelque chose et où je sens quelque part que c'est en faisant chemin, en fait. Après, ça ne m'appartient pas de toute façon et je ne cherche pas à les conquérir non plus. Justement, moi qui suis commerciale, je n'ai pas envie de faire de développement, j'ai envie que ce soit juste naturel, organique, que ça se porte comme ça. En tout cas, c'est ce qui m'anime. Je n'ai pas envie du tout de tomber dans le prosélytisme parce que moi, je suis la première à partir du moment où tu viens, à l'inverse de mon consentement, ça ne passe pas.
Mais non.
Donc, du coup, je suis hyper respectueuse de ça. Mais c'est... Donc, effectivement, du coup, pour dire que, effectivement, dans les endroits où je suis, ben, c'est dans les endroits où je suis que. Mais en revanche, maintenant, j'ose dire que moi, le système de croyance que j'ai choisi, c'est celui-là. Toi, tu choisis le libéralisme, toi, tu choisis l'hypersocialisme, toi, tu t'es habité, tu as choisi. Comme intellectuellement, ils sont capables de comprendre que, en fait, j'ai discerné, j'ai fait un choix, et dans tout ce qui est proposé, nous, je crois.
Lisez-le. Je vous invite à prendre votre question. Vraiment, je vous invite à lire et à savourer La liberté intérieure du Père Jacques Philippe.
D'accord.
Ah, vraiment. C'est le très bon livre. Qui est aux antipodes de l'annonce, mais qui, ma conversion, qui je suis, voilà, ma rencontre avec le Seigneur, ma liberté intérieure. Alors je vais vous donner, les deux feuilles, le schéma du festival missionnaire, tel que, alors vous voyez voir, tel qu'il a été fait cette année, l'année dernière, là. Vous pouvez prendre une feuille chacun, et puis le schéma aussi de la visitation. On avait passé une visitation, une semaine missionnaire à Square de Rouen. Et on va pouvoir finir par la prière qu'on faisait avant les visites.
Et tout à l'heure, vous parliez, Père, des fraternités paroissiales.
Voilà, et je vous offre à chacun le dépliant de la cathédrale qui vous donne un peu la dynamique de ce qui se vit. Pardon, oui.
Non, on parlait tout à l'heure des fraternités paroissiales missionnaires. Ben, ce sera l'objet de notre prochaine rencontre. Le 2 avril, on parlera des fraternités, de la mise en place, et chacun pourra donner son expérience. Et le cours sera à Pontivy, par contre.
Ah.
Là, ça change au lycée Jeanne d'Arc. Vous avez les coordonnées. vous avez fait un mail et on va sur ton site.
Je retourne dans mon lycée.
Ah, bah, ah, bah, il n'y a pas besoin de donner de plan. À Pontivy, au lycée Jeanne d'Arc, le 2 avril, sur les fraternités paroissiales, justement. Donc, on aura la petite vidéo bah, qui, où le père Patrice intervient, parce que vous ne pouvez pas venir le 2 avril.
Ah non, je suis vraiment pris là.
Ouais. Donc, on prendra la petite vidéo, et puis bon, voilà, on partagera un petit peu des expériences particulières.
Ça, à mon avis, c'est l'avenir.
Oui, moi aussi.
Fraternité, vous avez lancé il y a quelques années maintenant.
Ouais, 3 ans, vous lancez ça en paroisse.
Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot juste sur votre conviction devant le cheminement de cette fraternité?
Moi, ma conviction, c'est la seule, ouais. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être chrétien et être disciple missionnaire avec l'unique relation, ma vie, la messe du dimanche. Si on n'a pas un lieu source, un lieu où on se forme, un lieu où on partage, un lieu où on se retrouve avec d'autres, pour se souvenir, pour écouter la parole, pour se nourrir et pour avancer, c'est compliqué. Si on n'a pas un lieu où on s'investit, mais où on reçoit, c'est compliqué. Et mon constat dans ma paroisse, c'était que beaucoup de jeunes générations venant, revenant, etc., ben, elles sont speed toute la semaine, hein, métro, boulot, dodo, et il y a la messe du dimanche, et ça peut être très desséchant. Parce que, et aujourd'hui, et je pense en recommençant, en catéchumène, à tout ce monde-là, si on n'a que la messe le dimanche à leur proposer, c'est génial, c'est l'essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Il faut trouver des lieux, que j'appelle des églises embryonnaires, des minorités créatives, des oasis d'espérance, dira Benoît XVI, pour aller à la source, pour partager avec d'autres sans faire de l'entre-soi, mais quand même, se retrouver avec des congénères, c'est quand même pas mal. Avec des gens, ben, non pas qui me ressemblent, mais qui m'aident, qui me soutiennent, qui me stimulent, que j'écoute. Et ça, c'est bien, ça. Tout comme nous, on se retrouve entre prêtres, non pas entre copains, mais on a des associations, vous savez, de sensibilité, de commandeurs. Et ben, il est bon, parce que sinon, on ferait du fonctionnement, quoi. De trouver 4-5 collègues, de temps en temps, pour un lundi, pour partager ensemble, pour méditer ensemble, pour déconner ensemble, pardon, pour, comment, pour, voilà, et ben, ça fait du bien aussi, si vous voulez, quoi, comment, donc, ouais. Donc ça, c'est fondamental, les fraternités. Et je crois que pour l'Église de demain, c'est Benoît XVI hein, qui a beaucoup poussé sur ces questions de... Et je vous souhaite de lire le bouquin du père Étienne Michelin, vous allez me dire, je vous conseille plein de bouquins, qui s'appelle « Les minorités créatives ». Les minorités créatives. Il fait un peu d'ecclésiologie derrière « Les minorités créatives ». Le père Étienne Michelin.
Tout à l'heure, vous avez dit... Le passé à la miséricorde, oui. L'avenir à la providence.
Le présent à l'amour. Il faut offrir le passé à la miséricorde, d'accord. Le présent à l'amour et le futur à la providence.
D'accord. Et c'est le futur.
Est-ce que vous voulez comprendre la prière juste une introduction. Après, on pourra dire ensemble.
Une petite prière pour les Ukrainiens et les Russes.
Oui.